Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes bien chers frères, bien chers amis. Avant de vous parler un petit peu de l'évangile de l'épître d'aujourd'hui, troisième dimanche du carême, je vais dire deux mots sur cette dernière retraite parce que c'est assez intéressant. Je pense que les gens qui écoutent sur Internet seront aussi intéressés. C'est une des retraites certainement les plus dures que j'ai jamais prêchées. On n'a jamais eu autant de problèmes à une retraite. Pour vous donner un peu une idée, les démons étaient tellement déchaînés. Les 48 heures qu'on faisait la retraite, on a eu 9 annulations. Vous n'avez jamais vu ça. Et 9 annulations, ce sont des annulations involontaires. Il y a des gens qui aménagent des retraites pour ménage. Un ménage s'est fait cambrioler la veille, ils n'ont pas pu venir. Un autre ménage est tombé très malade, madame est enceinte, ils n'ont pas pu venir. Troisième ménage, ils ont eu des problèmes de train, d'être annulé, ils n'ont pas pu venir. Enfin, tout comme ça. En plus de ça, on a eu des tas de problèmes pendant la retraite avec l'infirmière, la cuisinière qui est tombée malade. J'ai même dû mettre à la porte un retraitant. Enfin, la totale. Le résultat des courses, on a eu une conversion même magnifique. C'est en général toujours comme ça que ça se passe. Quand on a des retraites, il y a des problèmes, c'est que des gens ne sont pas contents. Et vendredi soir, on est un baptême d'adultes, splendide. Donc, priez pour la persévérance, monsieur. Je voudrais vous en parler deux minutes parce que c'est important pour nous expliquer comment le bon Dieu travaille. Il y a quelques mois, on a eu un mariage de gens qui s'étaient convertis aux retraites, qui avaient été baptisés au cours des retraites et qui sont mariés chez nous. Et leur témoin de mariage a été le témoin de madame. Le monsieur était une personne qui n'était pas catholique, qui était témoin de leur mariage, des amis de longue date. Et donc, il est venu avec son ami, une jeune fille, et ils ont été tellement impressionnés par le mariage, la liturgie traditionnelle à laquelle ils n'avaient jamais assisté de leur vie. Tellement impressionnés par l'ambiance générale de la maison qu'ils m'ont dit, monsieur l'abbé, on vient faire la retraite, la prochaine retraite. Et ils sont venus. Ils sont venus faire la retraite et c'est lui qui a été baptisé. Mais comment le bon Dieu travaille. Et malgré les grosses épreuves, quand j'ai vu toutes ces annulations de retraite, la veille de la retraite, je me suis dit, à tous les coups, il y a un gros poisson qui va arriver, c'était ça. Et pour nous aider à comprendre comment le bon Dieu travaille. Vous savez, lorsque le démon s'acharne sur certaines personnes, on sent très bien, c'est parce qu'il n'est pas content. Alors, le démon se venge d'une façon dure. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se décourager quand on a des périodes de désolation terrible, des périodes où tout va mal, des périodes où on avait tout lâché. Souvent, c'est tout simplement le démon qui fait son travail parce qu'il sait qu'il y a du bien qui arrive. Évidemment, le démon n'aime pas le bien surnaturel qui se fait et donc se venge ainsi. On le voit aussi, c'est tout à fait une application, je vous raconte ça parce que c'est exactement l'application de ce qui se passe dans l'Évangile. L'Évangile explique exactement la même chose. L'Évangile d'aujourd'hui explique que lorsqu'un démon est mis en dehors d'une maison, il est chassé par une bonne confession, par exemple, ou par un baptême, tout simplement. Quand le démon est chassé, quand le démon est mis dehors, parce que cette personne s'est convertie, a fait une bonne confession générale, par exemple, le démon est sorti, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne un peu autour de la région, il revient pour essayer de revenir dans la personne. Et il trouve la maison toute ornée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne s'est complètement convertie, et maintenant il y a la grâce sanctifiante qui illumine cette personne. La lumière de la grâce est là. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que vous croyez que le démon va dire, bon, ben tant pis, j'ai perdu cette âme? Non, il va en enfer rechercher 7 démons pires que lui. Et il revient pour essayer d'envahir la maison. Et 7 démons, bien sûr, c'est le symbole des 7 péchés capitaux. Donc le démon va attaquer de toutes parts, de tous les côtés en quelque sorte, pour essayer de revenir dans la maison. Et l'Évangile explique bien que s'il arrive à rentrer dans la maison, l'état de cet individu devient pire. C'est ça qu'il faut savoir vraiment apprendre à se protéger du démon sans se décourager. Et le bon Dieu nous a donné pour cela toutes les grâces nécessaires, même quand on est en état de péché. Le bon Dieu n'a pas voulu abandonner les gens qui sont en état de péché mental et donne des grâces particulières aux gens qui sont dans le péché. Ce n'est pas bien sûr la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante, c'est la charité qui est incompatible avec le péché. Donc la grâce sanctifiante ne peut pas rentrer dans une âme qui est dans le péché. Il donne des grâces actuelles. C'est une série de grâces actuelles pour ramener lentement la personne à la confession pour qu'elle puisse se convertir. L'Évangile donne d'autres exemples. Il parle aussi d'un démon muet. Au début de l'Évangile, il parlait d'un démon muet. Notre Seigneur Jésus-Christ va guérir ce démoniaque qui est affligé, ce démon muet. Qu'est-ce que c'est que ce démon muet? Ben, le démon muet, c'est le démon qui empêche deux interprétations pour les pères. Première interprétation, ce démon muet, c'est celui qui nous empêche de prier. L'âme qui est spirituellement muette, c'est l'âme qui ne peut plus prier, qui ne sait plus prier, ou qui ne veut plus prier. Lorsqu'une âme est attaquée par le démon, une des premières choses qu'il va faire le démon, c'est couper l'âme des sacrements. Surtout le sacrement de pénitence et la communion, bien sûr. Mais une deuxième chose que fait le démon, c'est couper l'âme de la vie de prière. Il faut prier sans cesse, on dit notre Seigneur. Et ceux qui ont le plus besoin de prier, ce sont surtout les pécheurs. Parce que les pécheurs ont besoin de certaines grâces du bon Dieu pour aller se confesser, et donc ils doivent prier. C'est ça que les gens qui me disent, Monsieur l'abbé, je suis tombé dans le péché, donc j'ai arrêté de prier, c'est la pire des choses qui puissent vous arriver. Précisément, si vous avez le malheur de tomber dans le péché grave, eh bien, il faut continuer de prier, s'arc-bouter sur la prière, pour que la prière nous aide à refaire le pont avec notre Seigneur Jésus-Christ, nous ramène dans sa charité. Et donc, le démon muet, c'est donc le démon qui nous empêche de prier. La prière, c'est quoi? La prière, ce sont, je suis toujours comme ça aux petits, aux enfants, parce qu'ils comprennent très facilement, et les adultes, ils comprennent aussi. La prière, ce sont tous ces petits mots qui ont tellement d'importance dans la vie sociale. On apprend aux enfants. Les enfants vont la répéter 25 000 fois, ces petits mots, parce qu'ils les oublient toujours. Bonjour, bonsoir, s'il vous plaît, je vous demande pardon, etc. Eh bien, c'est ça la prière. La prière consiste tout simplement à dire bonjour au bon Dieu le matin. La prière consiste tout simplement à dire au revoir au bon Dieu le soir, à demander pardon pour les offenses, à savoir demander avec persévérance en disant le mot petit mot magique s'il vous plaît, pour obtenir ce qu'on veut. Quand un petit garçon demande quelque chose à sa maman, on lui dit un petit mot magique, la maman ne fait pas oublier pas au garçon, elle ne répond pas à sa demande. Quand j'étais petit, je demandais quelque chose à mes parents sans dire s'il vous plaît. Ma maman regardait, elle me faisait un petit mot magique. Il fallait dire s'il vous plaît, sinon on n'avait rien. Bien, c'est pareil avec le bon Dieu. Et donc, si on a l'impression que le monde n'écoute pas nos prières, c'est vrai, il faut regarder là, est-ce que j'utilise les petits mots magiques? Est-ce que je suis suffisamment humble pour dire s'il vous plaît, pour demander pardon, pour dire bonjour, pour dire bonsoir, afin que le bon Dieu me donne les grâces? Les pères interprètent aussi d'une autre façon en disant que le démon muet, c'est également celui qui ne peut pas se confesser ou n'arrive pas à se confesser parce qu'il y a des choses qu'il ne veut pas dire. Vous savez que le démon est toujours comme ça, il enlève la honte pour que nous commettions un péché. Puis une fois qu'on a commis le péché grave, il en met la honte sur le dos pour qu'on n'arrive pas à les accuser. Et donc le démon muet va intervenir à ce moment-là pour empêcher la personne qui veut se confesser de se confesser proprement. Alors ça peut être soit en général, c'est toujours un peu les mêmes choses que fait le démon. En général, il va s'arranger pour que la personne n'ose pas accuser une occasion prochaine volontaire de péché mortel. Ou alors il va travailler sur la honte pour que cette personne qui a commis un péché n'ose pas expliquer au prêtre une circonstance importante du péché. Il peut aussi travailler sur le nombre des péchés mortels. Une personne a commis trois fois un péché mortel, par exemple, le démon va vous pousser à en dire que deux. L'important, c'est que tu aies dit le péché, même si tu mens sur le nombre, c'est pas grave. N'oubliez pas que si vous savez de façon pertinente que vous avez commis, par exemple, trois péchés mortels, vous n'en accusez que deux, même si c'est par exemple des péchés mortels identiques, eh bien, il manque un péché mortel, donc l'accusation est incomplète, et à ce moment-là, il manque une circonstance nécessaire pour l'intégrité de la matière. Et donc, la confession est invalide. Donc, il faut beaucoup, beaucoup se méfier, mes chers frères, de ces démons muets. Et il faut, pour comprendre ce passage, il faut le mettre en parallèle avec l'épître aux Éphésiens d'aujourd'hui, où saint Paul explique bien, il est parti très forte dans cette épître, il fait une longue liste des différents péchés, et puis il explique, il résume en disant que ceux qui commettent ces péchés, il parle surtout de deux péchés, à savoir les péchés d'impureté et les péchés d'idolâtrie, ceux qui commettent ces deux péchés ne posséderont point le royaume des cieux. Et il insiste surtout sur ces deux péchés, péchés contre la pureté, contre le sixième et neuvième commandement, et les péchés d'idolâtrie qui sont bien plus graves contre le premier commandement. Et il faut comprendre ce texte de saint Paul. Peu de gens savent, par exemple, que saint Paul, dans une autre épître, dans l'épître aux Romains, chapitre 1er de l'épître aux Romains, début de l'épître aux Romains, Saint Paul explique que les vices contre nature d'impureté qui sont maintenant partout dans le monde, qui se diffusent comme une traînée de poudre, comme une traînée de feu alimentée par la poudre, eh bien ces péchés contre nature, dit Saint Paul, sont la cause de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est l'adoration des faux dieux. Les gens qui remplacent l'adoration au vrai Dieu par l'adoration au faux Dieu. C'est un péché extrêmement fréquent. Et saint Thomas nous explique que ce péché d'idolâtrie est le plus grave de tous les péchés. Donner l'adoration qui n'est due qu'à Dieu seul, donner cette adoration à un faux Dieu. C'est des péchés très fréquents. Des péchés d'autant plus fréquents que la plupart des gens, même parfois les catholiques, ne se rendent même plus compte de leur gravité. Je connais des jeunes qui sont tout à fait capables, par exemple, mais sans aucun remords de conscience, de gratter leur messe du dimanche simplement pour un match de football. Ils ne réalisent pas du tout que rater sa messe du dimanche pour un match de football, ça consiste en deux, ça fait commettre un double péché mortel. D'abord, le fait qu'on a manqué à la messe du dimanche, donc c'est un péché contre le troisième commandement, et c'est aussi un péché contre le premier commandement. Et si on ne pense pas à l'accuser. Péché contre le premier commandement qui consiste à donner au football la place de Dieu. C'est un péché d'idolâtrie. Il y a des gens qui sont comme ça aujourd'hui. Avant, dans les temps barbares, on adorait les étoiles, les pierres ou les arbres. Maintenant, c'est encore pire. Ils adorent le ballon ou ils adorent leur voiture ou leur ordinateur. Et donc, il faut relire ces textes qui sont très importants pour les aider à comprendre que si nous sommes envahis par ces péchés-là, c'est souvent tout simplement parce que nous avons péché contre le premier commandement par les péchés d'idolâtrie. Et Dieu ne se moque pas, il ne faut pas oublier ces choses-là. Et saint Paul nous donne toute une série d'autres conseils. Je n'ai pas avoir le temps de revenir sur tous les trucs de saint Paul et sur tout l'évangile, parce que l'évangile est aussi très très riche. Mais l'évangile, par exemple, nous dit que... Je vais prendre le texte exact. L'évangile nous dit que celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Hein, celui qui n'amasse pas avec moi d'ici, disperse, nous dit l'évangile d'aujourd'hui. C'est un texte aussi très ferme qui nous aide à bien comprendre, encore une fois, ce retour, il y a un lien avec l'épître, parce que celui qui n'amasse pas, qui n'est pas avec moi et contre moi, justement, fait allusion aussi au péché d'idolâtrie. Dieu est un Dieu qui ne partage pas sa gloire. Dieu n'accepte pas de partager sa gloire avec un faux Dieu. On le voit très bien, par exemple, dans l'Ancien Testament, dans le comportement des Juifs. On voit que c'est un péché récurrent chez les Juifs de l'Ancien Testament, le péché d'idolâtrie. Par exemple, lorsque Moïse est monté sur la montagne pour recevoir les tables de la loi, donc il va passer 40 jours sur la montagne, recevoir les tables de la loi de notre Seigneur Jésus-Christ, du bon Dieu, la situation est telle que notre Seigneur Dieu lui-même lui dit « Redescends, parce que ton peuple a prévariqué. » Et donc, Moïse redescend de montagne, et qu'est-ce qu'il constate? Il constate qu'Aaron, c'est-à-dire celui qui avait pris sa place, avait fait faire un veau d'or avec tous les objets, les bijoux d'or des dames, et avait fait un veau d'or pour adorer ce veau d'or. De rage, littéralement, Moïse, le grand Moïse, a brisé les tables de la loi. Parce qu'il avait compris que mon peuple était incapable, n'est pas digne des tables de la loi actuellement à cause de ce péché d'idolâtrie. On voit ce péché d'idolâtrie se répéter constamment pendant leur voyage depuis la terre d'Égypte jusqu'à la terre promise, la Palestine, et la terre promise pour eux. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas un seul parmi ceux qui ont quitté l'Égypte, pas un seul qui va arriver à la terre promise. Ils vont tous mourir, Moïse lui-même. Sauf deux personnes, Caleb et Josué. Et pour bien nous faire comprendre la gravité de ces choses, donc, notre Seigneur le dit bien dans l'Évangile, ce n'est qui n'est pas avec moi et contre moi. Celui qui n'amasse pas avec moi et disperse. Pour bien nous faire comprendre qu'il n'y a pas trois voies, il n'y en a que deux. C'est ou pour ou contre notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, beaucoup de jeunes, surtout les jeunes qui sont tentés par ça, la tentation c'est laquelle? La tentation que nous donne le monde moderne, c'est de dire, bon, il y a un temps avec notre Seigneur Jésus-Christ, et un temps avec avec le monde. Donc le dimanche, à la messe de dimanche, ça je suis avec notre Seigneur, pas de problème. Le soir ou le matin, quand je fais ma prière, je suis avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et pendant la journée, je suis avec le monde. Alors, il cherche un petit peu à avancer comme ça, avec la main droite avec le drapeau de notre Seigneur Jésus-Christ, et la main gauche avec le drapeau du monde. C'est pas possible. Parce que ce sont deux adorations complètement différentes. Sur le drapeau de notre Seigneur Jésus-Christ, sur l'étendard de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qui est écrit? Pauvreté, chasteté, obéissance. Et sur l'étendard du monde, qu'est-ce qu'il a écrit? Liberté, égalité, fraternité. On ne peut pas lier les deux choses ensemble, c'est absolument impossible. Et donc, il faut demander au bon Dieu, avec grande humilité, cette grâce, justement, de savoir se battre et de ne pas partager la gloire du bon Dieu avec des choses mondaines. Quelque chose que le bon Dieu ne peut pas accepter. Le bon Dieu ne peut pas tolérer qu'on partage sa gloire avec des choses matérielles. On tombe sur le péché, le péché de l'idolâtrie. Donc celui qui n'est pas avec moi est contre moi, c'est qu'il est obligé de faire un choix. C'est pour cela que ça reprend la grande prophétie, une conséquence de la grande prophétie que le vieillard Siméon avait donnée juste au début de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, quand notre Seigneur Jésus-Christ, tout bébé, vient porté par la très sainte Vierge Marie, accompagné de Saint Joseph, il vient au temple de Jérusalem pour que cette famille puisse remplir les prescriptions légales après la naissance de l'enfant. Et ce vieillard à qui il avait été révélé, vous connaissez l'histoire, il lui avait été révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir pris dans ses bras le Sauveur du monde. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire cette prophétie extraordinaire qu'il faut bien comprendre. Cet enfant sera un signe de contradiction pour la ruine ou pour la résurrection de beaucoup en Israël. C'est-à-dire quoi? Bien soit j'utilise et je plante constamment dans mon âme le drapeau de notre Seigneur Jésus-Christ. À ce moment-là, je vais pouvoir utiliser notre Seigneur Jésus-Christ pour monter vers le ciel. Soit au contraire, je refuse notre Seigneur Jésus-Christ, je plante dans mon âme le drapeau de la révolution, le drapeau du monde, et à ce moment-là, je ne pourrai pas, bien sûr, pas aller au ciel. Et oui, il faut comprendre toutes ces choses-là. C'est ça le signe de contradiction. Notre Seigneur Jésus-Christ est un signe de contradiction parce qu'il est Dieu. Et il ne faut pas s'étonner si nous, mes bien chers frères, vous et moi, dans le monde moderne, nous serons toujours des signes de contradiction. Et c'est une des façons, d'ailleurs, très, très intéressantes d'expliquer pourquoi l'Église du Vatican II est arrivée. L'Église du Vatican II, c'est quoi? L'Église du Vatican II, c'est tout simplement une église pour des gens qui ne veulent plus être en contradiction avec le monde. Ils veulent bien aimer le bon Dieu. Ils vont parler du Christ souvent. Ils veulent bien aimer le bon Dieu. Ils veulent bien aimer notre Seigneur Jésus-Christ, à condition qu'il n'y ait pas de contradiction dans leur vie. À condition qu'ils puissent jouir de tous les avantages du monde moderne. En gros, ils veulent le beurre et l'argent du beurre en même temps, comme on dit un peu vulgairement. Et c'est là qu'il faut faire très très attention, parce que ça, c'est absolument inacceptable pour nous. Et on a tous cette tentation en nous. Et donc, il faut vraiment demander au bon Dieu qui nous donne toutes les grâces dont nous avons besoin pour que nous puissions comprendre ces choses-là. Et il y a un dernier conseil de notre Seigneur sur lequel je voudrais insister. Notre Seigneur Jésus-Christ répond à la femme qui lui dit: Heureuses sont les mamelles qui vous ont allaité. Notre Seigneur Jésus-Christ de répondre: Heureux plutôt celui qui écoute la parole du bon Dieu et qui la met en pratique. Et nous ne sommes pas sauvés par la foi seule, contrairement aux protestants. Protestants pensent qu'il y a seule la foi seule, la foi suffisante pour sauver un sola fide. Non, ce n'est pas la foi seule, c'est écouter la parole de Dieu, la foi, et la mettre en pratique, la charité. C'est la raison pour laquelle, dans le catéchisme du Concile de Trente, celui de Saint-Pilice aussi d'ailleurs, dans les conditions d'appartenance à l'Église catholique, il est parlé de la foi et de la pratique de la foi. Pratique de la foi, c'est croire. Pratique de la foi, c'est la vertu de charité, c'est donc les sacrements. Donc on n'est pas sauvé par la foi seule, c'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui va au ciel, on est sauvé par la pratique de la foi, dire l'application de la foi dans ma vie particulière, mais privée de chaque jour. L'Église catholique est une praxis, attention. C'est pas simplement quelque chose de purement intellectuel. Il faut appliquer notre foi à la vie de tous les jours, et c'est pour ça qu'on peut repérer, voir un bon catholique à la façon dont il vit. Un catholique n'est pas catholique par la façon dont il pense. Ses pensées dans son intelligence, ça ne suffit pas. Il faut vivre comme un catholique. Rappelez-vous la formule très connue d'Ernest Hello, si je ne vis pas comme je pense, un jour je penserai comme je vis. Et ainsi, je pense comme un catholique, mais je vis comme un protestant, comme un mondain, un jour, eh bien évidemment, je finirai par penser aussi comme un mondain. Et une fois que l'intelligence est viciée, on dit que le poisson pourrit toujours par la tête, une fois que l'intelligence est viciée, à ce moment-là, la situation devient récupérable sans un miracle de la grâce du bon Dieu. Donc il faut vraiment, avec beaucoup d'humilité, mes bien chers frères, leur rendre toutes ces grâces. Il faut les demander par l'intermédiaire de la Très-Sainte Vierge Marie. La Très-Sainte Vierge Marie est justement celle qui a refusé catégoriquement tous les péchés, mais surtout le péché de l'idolâtrie. Jamais elle n'a accepté de mettre notre Seigneur Jésus-Christ, son divin Fils, au même niveau que les idoles du monde moderne. Et ça, c'est le crime de l'Église de Vatican II. C'est le crime de Bergoglio. Mettre toutes les religions au même niveau. Et évidemment, ce qu'a fait, si vous voulez, il refait en quelque sorte ce qu'a fait Pilate, lequel de ces deux personnes voulez-vous que je vous relâche? Que je vous relâche, ou notre Seigneur Jésus-Christ, ou Barabbas, et on met les deux personnes au même niveau. Barabbas et notre Seigneur Jésus-Christ au même niveau, le monde et notre Seigneur Jésus-Christ au même niveau. C'est pas possible. Donc il faut demander à notre Sainte Vierge Marie, elle qui avait parfaitement compris toutes ces choses-là, il faut lui demander avec beaucoup d'humilité qu'elle nous donne la force, le don de force, pour justement ne jamais, jamais se tromper dans ce choix. Jamais essayer de trouver une situation, une place de situation intermédiaire entre le vrai et le faux. On n'a pas, on n'est pas catholique simplement le dimanche, pendant la messe du dimanche. On est catholique 24/24. Un catholique, c'est ça. Un catholique, c'est quelqu'un qui vit de sa foi, le juste vit de sa foi, le juste vit de sa foi et la pratique dans la vie de tous les jours. Va dire bon, j'ai une partie de ma journée pour moi, puis une partie de la journée pour le bon Dieu. Non, quand on fait sa prière du matin, on offre tout ce qui va arriver aujourd'hui dans le bon Dieu. Il y a sa vie familiale, sa vie professionnelle, sa vie de détente, tout est offert à notre Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas faire des cloisonnements. Une partie c'est pour le bon Dieu, une partie c'est pour le monde, une partie c'est pour moi. Non, tout doit être sous le regard du bon Dieu. Mais si je n'ose pas faire une activité sous le regard du bon Dieu parce que j'ai un peu trop, ça veut dire que le bon Dieu ne veut pas que je fasse cette activité, c'est tout simple. Nous demandons, mes bien chers frères, demandons à Notre-Dame de nous aider à comprendre ces choses-là. Bientôt, dans quelques jours, ce sera le mois de mars qui arrive, ayons aussi une grande dévotion vers celui qu'on appelle souvent Monseigneur Saint-Joseph, le grand silencieux de l'Évangile. On n'a pas une seule parole de Saint-Joseph. On a des paroles de notre Seigneur, bien sûr, énormément. On a plusieurs paroles de Notre-Dame. On n'a pas une seule parole de Saint-Joseph. Pourtant, il est patron de l'Église. Le patron de l'Église universelle, c'est Saint-Joseph. Ça semble un peu bizarre. Là, parfois, on nous demande comment se dit que le patron de l'Église universelle ne soit pas Notre-Dame. C'est Saint-Joseph qui a été choisi par l'Église pour être patron de l'Église. Pourquoi? Parce qu'il est chef de famille. Il est chef de la Sainte Famille, quelle responsabilité. Des trois personnes de la Sainte Famille, notre Seigneur Jésus-Christ, Notre-Dame et Saint-Joseph, le moins saint, c'est Saint-Joseph, et c'est lui qui est en charge. Lui qui est en charge de protéger la Sainte Famille et d'amener notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à le début de sa vie publique. C'est pour ça que Saint-Joseph n'a pas connu la vie publique de notre Seigneur. Il est mort avant. En demandant lui aussi, pendant ce moment terrible, cette grâce de protéger notre foi, à savoir nous aider avec sa sainte épouse, notre Sainte Vierge Marie, de savoir nous aider pour que nous puissions être fidèles dans les petites choses, afin un jour d'être fidèles dans les gros, dans les grands, pour pouvoir un jour bien sûr posséder le ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.